Vous écoutez France Culture.
Bonjour Clarence.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. La France retient son souffle plus que quelques heures avant la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et la Croatie. 20 ans après le sacre de 98, l'équipe de France va tenter d'accrocher une deuxième étoile sur son maillot bleu. Si elle y parvient, que peut vraiment apporter ce titre de champion du monde au pays? Le sociologue et professeur Albrecht Sontag s'est penché sur le pouvoir politique du football. Nous l'entendrons dans ce journal. Un cessez-le-feu de courte durée entre l'armée israélienne et le Hamas. Hier soir, des tirs de mortier vers l'État hébreu ont repris, tout comme les bombardements sur Gaza. Nous irons à Jérusalem rejoindre notre correspondante Marie Semelin. Pas de répit non plus au Nicaragua. Des scènes de violence ont éclaté dans la capitale Managua. Deux étudiants retranchés dans une église ont été tués par les forces paramilitaires proches du président Ortega. Nous reviendrons sur cette nuit de cauchemar pour ces étudiants avec Bastien Roch dans un instant. Impossible d'échapper à la ferveur qui s'est emparée du pays, on l'aura bien compris, ce dimanche 15 juillet, s'écrit en lettres bleues, une population en apnée, une attente insoutenable pour certains avant la finale de Coupe du Monde de football entre la France et la Croatie. Alors question, si la France parvient à décrocher ce soir une deuxième étoile, que peut vraiment apporter ce titre de champion du monde à un pays? Alors le sociologue et professeur Albrecht Sontag s'est penché sur le pouvoir politique du football. Pour lui, pas de doute, il n'y a rien à attendre pour le pays en cas de victoire finale.
Le football n'a aucun impact politique, surtout pas à long terme. Le football a un impact très ponctuel, mais il sera relativement vite remis au deuxième rang. Je souscris entièrement au titre d'ouvrage assez célèbre de mon collègue Christian Pomberger qui disait « C'est une bagatelle, bien sûr la plus sérieuse du monde, mais c'est une bagatelle ». Le football de 98 n'a rien changé pour les problèmes de la société française. Par contre, il a créé un précédent. Ce qu'il a fait, c'est coller des photos dans l'album de famille de la France. C'est éphémère, ça résout aucun problème, mais c'est déjà quelque chose. Et le nombre de personnes qui ont un sourire sur les lèvres quand on leur parle de 98 est assez élevé dans ce pays. Et je trouve que ce n'est pas rien. Donc, si la France gagne dimanche, elle ne résoudra aucun problème sociétal ni économique auquel elle est confrontée. Les problèmes vont vite revenir. Il n'y a aucun impact, ni même à moyen terme. Sauf, peut-être, pour la Fédération française de football, parce qu'on peut s'attendre à une inscription massive de jeunes garçons et de jeunes filles qui ont envie de devenir les héros de 2038.
Alors on parle de cette équipe de France, mais un peu moins de son adversaire la Croatie. Une évidence, le peuple croate soutient son équipe, mais qu'en est-il de ses voisins des Balkans? Rappelons que la Croatie a fait partie de la défunte Yougoslavie, éclatée aujourd'hui en plusieurs pays. Alors intéressant de savoir si les pays issus de l'ex-Yougoslavie soutiennent ou pas la Croatie. Réponse avec vous Laurent Rouy.
Lorsque le tennisman Novak Djokovic a fait savoir qu'il soutenait la Croatie à la Coupe du Monde de football, un député serbe du parti nationaliste au pouvoir l'a taxé d'idiot, tout en rappelant le nombre de victimes serbes de la guerre. Cette réaction montre combien le monde des supporters de foot est divisé dans les pays d'ex-Yougoslavie autour du soutien ou pas à la Croatie. Célèbre commentateur sportif de l'époque yougoslave, Milojko Pantic a estimé à la télévision que la Serbie citoyenne soutiendrait la Croatie, contrairement à la Serbie nationaliste et chauvine. Interrogés par plusieurs médias, les supporters serbes sont divisés. Environ la moitié soutient la Croatie. En Bosnie, la même question a été posée et a même enflammé les forums de supporters. Pour les uns, hors de question de soutenir la Croatie en raison de la guerre, mais aussi de la politique actuelle des Croates de Bosnie, tandis que les autres veulent soutenir le pays voisin. La question du soutien sportif apparaît régulièrement dans les médias en Bosnie, puisque selon son appartenance ethnique, on soutient la Croatie, la Serbie ou la Turquie. Notons qu'il y a quelques semaines, une question similaire s'était posée en Croatie lors de la rencontre en phase de groupe entre la Serbie et la Suisse, dont de nombreux joueurs sont d'origine albanaise. Après le match, de nombreuses personnalités croates, dont l'ancien président de la République Stipe Mesic, avaient affiché leur soutien à la Suisse, un grand sourire aux lèvres.
Laurent Rouy. Au Nicaragua, une nuit de cauchemar, c'est ce qu'ont vécu les étudiants de l'Université de National Autonome entre vendredi et samedi. Retranchés dans une église de la capitale Managua, ils étaient encerclés par les forces paramilitaires fidèles au régime du président Ortega. Deux étudiants ont péri sous les tirs des soldats. Libérés grâce à la médiation de l'église, leurs camarades relatent des scènes dignes d'une guerre civile. Le récit avec vous, Bastien Roch.
Atterrés, usés, les jeunes militants présents sur place racontent avec émotion les heures qu'ils ont vécues retranchés dans l'édifice religieux. Ils nous ont attaqués sans pitié et ont essayé par deux fois de brûler l'église alors que nous étions à l'intérieur, raconte un jeune homme sous anonymat. Face au risque d'incendie, certains sont sortis pour éteindre les flammes, s'exposant alors aux tirs des soldats. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes, raconte un autre étudiant. Un de ses camarades, blessé à la jambe, ajoute « Ils nous ont coupé l'électricité et ils ont commencé à nous tirer dans la tête. J'ai vu tomber un de mes camarades de classe. Comme il faisait nuit, nous avons appris seulement au matin qu'un deuxième camarade était mort. » Finalement, c'est l'intervention du clergé qui a permis l'évacuation des étudiants. En la personne du cardinal de Managua, Monseigneur Leopoldo Brenes, il désigne le président Ortega comme seul responsable de ces affrontements et lui demande d'arrêter le massacre. Dans ce pays à 80% chrétien, seule l'église avait encore le pouvoir de protéger les 200 étudiants. Dépité, l'un d'eux déclare après sa libération « Ils n'ont pas respecté l'église, ni l'image de la Vierge, ni celle du Christ. Ils ont tout détruit. Les murs sont criblés de balles. » Les étudiants sont le fer de lance de la révolte entamée le 18 avril contre le gouvernement du couple Ortega. Le président et son épouse, accusés de mettre en place un régime de dictature, ont répondu aux manifestations par une répression sanglante. Des affrontements qui ont déjà causé la mort de 270 personnes et blessé plus de 2000 autres à travers le pays.
Merci Bastien. Triste record en Afghanistan, 1692 civils tués pour moitié dans des attentats attribués au groupe État islamique durant le premier semestre de cette année. C'est le pire bilan diffusé par l'ONU et ce, malgré les trois jours de cessez-le-feu décrétés en juin dernier. Entre Israël et Gaza, le répit aura été de courte durée. Hier soir, un cessez-le-feu a été annoncé, mais quelques heures plus tard, les tirs de mortier vers l'État hébreu ont repris, tout comme les bombardements sur l'enclave, même si aujourd'hui la situation semble un peu plus calme. La correspondance à Jérusalem de Marie Semelin.
Le cessez-le-feu sous médiation égyptienne annoncé samedi soir par le Hamas devait mettre fin à 24 heures d'escalade entre Israël et la bande de Gaza, mais il a tenu seulement quelques heures, même si aujourd'hui la tension a diminué d'un cran. Des escalades comme celle d'hier, il y en a déjà eu deux récemment, fin mai puis fin juin. L'armée affirme que les frappes aériennes qu'ils viennent de mener sont les plus importantes depuis la guerre de 2014. Les habitants du sud du pays, près de l'enclave, ont entendu ce week-end plus d'une centaine de fois la sirène d'alerte à la roquette. Beaucoup ont été interceptés par le système antimissile Dôme de fer, mais certains de ces projectiles ont atteint une ville, celle de Sderot, située à 2 km de Gaza, faisant 3 blessés légers. À Gaza, 40 cibles ont été visées par Israël et 2 adolescents palestiniens qui se trouvaient en bas d'un des immeubles bombardés ont été tués. Ni Israël ni Gaza ne semblent souhaiter une guerre, mais à Gaza, le Hamas n'a pas d'issue face à une situation économique et sociale désespérée. Côté israélien, ce sont les cerfs-volants incendiaires envoyés depuis Gaza qui exaspèrent les Israéliens et poussent une partie du gouvernement à vouloir se montrer ferme, des éléments qui contribuent à l'instabilité de la situation.
Marie Semelin à Jérusalem. Dans la crise des migrants, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a mis la pression sur ses partenaires européens pour qu'ils prennent en charge une partie des 450 migrants qui se trouvent actuellement dans les eaux italiennes. Il a passé la journée de samedi à passer des coups de téléphone et à envoyer des mails à ses homologues ou chefs d'État de l'Union européenne. Sur sa page Facebook, Giuseppe Conte a indiqué que la France et Malte prendront chacune 50 des 450 migrants transbordés sur deux navires militaires. Avant de refermer ce journal, le temps pour ce dimanche, il restera estival mais orageux dans le sud-ouest, aux régions de l'Est jusqu'aux Alpes, grand soleil près de la Méditerranée, de la Bretagne au Hauts-de-France. Quelques pluies sont attendues sur les Pays de la Loire. Côté température, il fera entre 22 et 35 degrés du nord au sud. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Emmanuel Faucillon et Alexandre Dang à la technique. Très bel après-midi à tous. Thank you.